Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Paléontologue, voire paléo-anthropologue, si ce n'est Yves Coppens, pouvait, dans le Salon Noir, retracer nos 7 millions d'années d'existence, faire aujourd'hui et en 30 minutes le tour de l'actualité préhistorique. Homme de terrain, découvreur de fossiles préhumains, Lucie, ou humain, Chadanthropus uxoris, professeur au Collège de France, membre de l'Institut président de l'ASCO, Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
C'est un peu en voisin que vous venez dans le Salon Noir, puisque nous vous avions longtemps entendu sur France Info, que vous publiez aujourd'hui chez Odile Jacob vos chroniques des pastilles de préhistoire, le présent du passé 4. Yves Coppens, la question est brutale. Faites-vous encore de la recherche ou ne peut-on jamais se passer du passé?
Il est évident que je fais toujours de la recherche. Il est évident qu'on ne peut se passer de faire de la recherche. Et lorsque vous étudiez les résultats d'aujourd'hui, les résultats de terrain, moi je vais sur le terrain toujours, mais j'y vais évidemment moins longtemps et moins souvent, vous êtes confronté à des questions nouvelles, à des résultats nouveaux, à des découvertes nouvelles. Et ceci entraîne forcément des réflexions nouvelles. Et ces réflexions, vous n'êtes pas obligé de les traduire dans les grands journaux classiques qui désormais sont 3 journaux anglo-saxons, ce qui est un peu pitoyable. Et vous pouvez très bien les traduire sous la forme d'enseignements, de cours, comme il m'est arrivé au Collège de France, dont j'ai publié les résumés, et puis aussi dans des ouvrages tels que celui que vous avez sous le coude.
Quels sont vos terrains aujourd'hui ?
Mes terrains sont beaucoup dans le nord. Je suis très intéressé par la fonte, contrairement à d'autres, par la fonte des glaces, par la fonte du permafrost. Et le permafrost livre des quantités de restes d'animaux, dont certains ont l'air d'avoir été... Des restes d'animaux sont des cadavres, hein, et non plus des squelettes. Et ces restes d'animaux ont l'air d'avoir été quelquefois traités, maltraités, en tout cas touchés par l'homme. Et donc, j'aimerais bien trouver un jour prochain, seul ou avec des collègues russes avec lesquels je travaille, des bons hommes ou des bonnes femmes, hein, je suis pas sexiste, dans ce permafrost, parce qu'on aurait de vrais cadavres de peut-être 30 000, 40 000, 50 000 ans.
50 000 ans du néandertalien?
Ben, c'est pourquoi pas.
Vous pensez que c'est possible après tout?
Ben, je pense que c'est possible.
Il y a bien les mammouths.
Oui, je pense que c'est possible parce qu'il y a des mammouths, par exemple, dont l'âge dépasse les limites du carbone 14. Alors, le carbone 14, vers 45 000 ans, il s'essouffle. Et donc, si lui a pu tenir jusque-là, pourquoi pas les restes humains? Et 50 000 ans, ma foi, c'est un bon âge pour un Néandertal.
Et puis, il y a quand même aussi, ça a fait beaucoup parler, il y aurait aussi découvert des sortes de bactéries géantes. C'est un nouveau territoire qui est à conquérir aussi pour les biologistes, les anthropologues.
Oui, c'est forcément, puisque c'est un territoire qui livre non seulement ces grosses bêtes dont on parle toujours, mais tout leur environnement. Moi, lorsque j'ai sorti le premier mammouth du Taïmyr avec Bernard Bouygues, on l'a sorti sous la forme d'un énorme bloc, d'une sorte de cube. Et dans ce cube, il y avait le mammouth en question, mais il y avait aussi tout son entourage. Et son entourage, c'était des fleurs, des plantes, des restes d'insectes, enfin tout est intéressant à ce moment-là, puisque ce qui a été gelé, c'est évidemment non pas de la glace, c'est pas de la glace que l'on trouve, mais ce sont vraiment des terrains gelés. Et les terrains sont aussi variés que les terrains de n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire que l'on peut y trouver tout ce que contiennent ces terrains, et Dieu sait si ces terrains contiennent de la vie.
Une des découvertes récentes, ça a été aussi de montrer que Néandertal était monté très au nord, près du cercle polaire, déjà.
Oui, près du cercle polaire, oui. En effet, on a trouvé des dents que l'on soupçonnait être néandertaliennes, mais la paléogénétique l'a confirmé, au nord de l'Altaï. Le nord de l'Altaï, c'est le sud de la Sibérie. Alors, on parle de Sibérie, mais la Sibérie est immense également en latitude. En fait, on est dans le sud de la Sibérie, mais tout de même. Ça veut dire que l'homme à la bougeotte, et quelle que soit son espèce, y compris Néandertal, dès qu'il a pu sortir de son territoire, il en est sorti, et dès qu'il a pu aller voir ce qui se passait ailleurs, il y est allé. Mais...
Yves Coppens, vous faites de la recherche. L'anthropologie biologique semble aussi extrêmement dynamique, à voir la succession de fossiles humains ou préhumains qui sortent.
Bah, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, en effet, le public, petit à petit, s'y est intéressé, et comme vous savez, les médias, que vous représentez aussi, intéressent d'autant plus qu'il y a plus d'audience, et l'audience augmente, et il fut un temps où, quand je faisais une découverte, elle apparaissait au cœur du journal Le Monde, par exemple, hein, je pourrais en prendre d'autres tout à fait au hasard, mais il se trouve que quand c'était mieux, c'était un cheval culturel, c'est-à-dire qu'il y avait une petite annonce en première page, et puis le reste à l'intérieur du journal. Aujourd'hui, on fait la une, quoi. On fait la une au même titre qu'un événement politique, quand même.
Les plus vieux outils du monde ont fait la une de ce grand journal du soir, en tout cas.
Oui, 3 300 000 ans, hein, c'est quand même une grande découverte aussi. Oui.
L'actualité archéologique, mieux paléo-anthropologique et sans nul doute, actuellement dominée par la datation d'un petit australopithèque dont nous parlons souvent, Littlefoot.
Oui, alors Littlefoot, c'est une très jolie histoire, en fait, parce qu'il a été trouvé... dans les années 30, vers la fin des années 30, 36 ou 38, je sais plus, 38 je crois. Et il se trouvait dans une boîte qui était, heureusement, était bien marquée, Sterkfontein 2, ce qui était un niveau bien précis dans les dépôts d'une grotte. Et ce petit bonhomme représenté par 4 os d'un de ses doigts de pied, n'avait pas été reconnu comme tel. Et c'est un ami qui s'appelle Ron Clark qui, classant simplement des fossiles, autrement dit, il y a des découvertes à faire aussi dans les musées, s'est dit, mais il s'agit d'un hominidé. Évidemment, on avait fait des progrès dans la recherche et dans la reconnaissance, mais quand même, c'est un bon anatomiste que je connais depuis bien longtemps. Et c'est la raison pour laquelle il l'a appelé Littlefoot, puisque les premiers morceaux, c'était les morceaux d'un orteil. Et puis ensuite, il a trouvé un bout de tibia brisé, et puis avec ce tibia brisé, il est descendu au fond de la grotte de Sterkfontein, au niveau Sterkfontein 2, comme je le disais tout à l'heure. Et comme les ossements sont dans des roches très très dures, qu'on appelle des brèches, il a trouvé là où avait eu lieu la cassure, et puis il a fouillé des années, pour finalement sortir l'être, je dis pas l'animal, hein, parce que c'est un préhumain, en entier, et ce petit être qui est demeuré Littlefoot, mais qui officiellement s'appelle Australopithecus Prometheus, est désormais sorti de sa gangue.
13 ans de fouilles pour sortir le plus complet des Australopithèques.
Ah oui, ça c'est honteux, oui. Il se trouve qu'on était fiers en 1974 d'avoir sorti 52 ossements déterminables, 52 petits ossements brisés la plupart du temps déterminables de Lucie, 3 200 000 ans, mais cette fois-ci... Littlefoot, qui ressemble beaucoup à Lucie, en fait. Il a 3,7 millions, c'est une datation récente, et il est bien plus complet que Lucie, mais on tient le coup, hein. C'est-à-dire que ça n'a aucune importance, bien entendu, mais il se trouve que Lucie reste très emblématique et que l'on parle plus volontiers de Lucie que de Littlefoot, mais peut-être... elle est en tout cas détrônée quant à son âge et quant à sa... son entièreté. Ceci étant dit, peut-être a-t-elle détrôné aussi sur le plan de la star de la savane.
Nous savons, Yves Coppens, que Lucie Australopithèque ne peut être l'ancêtre direct de l'homme. Littlefoot pourrait-il l'être ?
Je crois pas. Je ne crois pas parce que tous ces êtres ont des dents qui ont des tendances à augmenter de taille. C'est-à-dire que ce serait plus volontiers des pré-humains qui s'orienteraient vers une consommation de végétaux plus fibreux et plus durs au moment où le changement climatique diminue la variété des plantes consommables. Donc, pas plus Lucy que Littlefoot, à mon avis, né l'ancêtre de l'homme, et ces gens-là sont plutôt les ancêtres de ce qu'on appelait à une certaine époque, de manière un peu générique, générale, les Australopithèques robustes.
En tout cas, entre Afrique du Sud et Afrique de l'Est, deux régions livrent des fossiles clés pour notre humanité. Pour l'origine de l'homme, vous pencheriez plus pour l'Afrique de l'Est, Éthiopie ou Kenya, ou justement Afrique australe?
Bah écoutez, j'ai l'air d'être tendancieux comme ça et de bien aimer l'Afrique de l'Est, mais pour le moment, en tout cas, je pencherai pour l'Afrique de l'Est. Tout simplement parce que lorsque l'on étudie justement cette transformation liée au changement climatique, on voit que le Tchad s'est illustré d'une certaine manière, on voit que l'Afar, de manière un peu comme une niche écologique, s'est illustré d'une autre manière. L'Afrique de l'Est, le reste de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le sud de l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, se sont présentés comme une seule et grande région paléogéographique et écologique, et l'Afrique du Sud comme une autre. Autrement dit, il y a eu ce que l'on connaît bien dans les autres développements, les autres filiations des animaux du monde, il y a eu des tendances en fonction des zones biogéographiques et des solutions toutes comparable sans qu'elle soit véritablement semblable.
Il y a un fait quand même entre Afrique australe et Afrique de l'Est. Il y a une difficulté de datation des fossiles sud-africains, ce qui n'est absolument pas le cas des fossiles d'Afrique de l'Est. Dans certaines grottes, par exemple, on trouve des fossiles en Afrique du Sud, qui devraient être très faciles à dater. Cela est extrêmement difficile, alors que certains sédiments à la surface où se trouvent les fossiles d'Afrique de l'Est sont très faciles à dater.
Oui, c'est-à-dire que beaucoup de nos datations sont biochronologiques, c'est-à-dire qu'on étudie les fossiles humains en fonction des restes d'animaux, puisque les restes d'animaux évoluent aussi. Mais il y a beaucoup plus de restes d'animaux en Afrique de l'Est qu'en Afrique du Sud, ce qui a facilité les choses. Je dois dire d'ailleurs qu'on peut retourner le compliment, si je puis dire, c'est-à-dire que parfois, ce sont les restes humains qui datent les restes d'animaux. Il y a aussi des datations paléomagnétiques dont on s'est beaucoup servi, le magnétisme terrestre ayant évolué beaucoup et on en connaît la succession des évolutions. Mais il y a aussi des datations par des méthodes dites absolues et qui sont retrouvées dans les terrains volcaniques. Or, l'Afrique de l'Est regorge de terrains volcaniques, d'où cette facilité de datation, alors que l'Afrique centrale, d'ailleurs le Tchad, n'en a pas, ou en tout cas en a très peu retombé du Tibesti, et que l'Afrique du Sud n'en a pas du tout, d'où sa longue période, plus d'un siècle quand même, pour essayer de déterminer les âges des fossiles sud-africains. Il y a aujourd'hui des méthodes nouvelles qui permettent des datations nouvelles, donc on va arriver à des chronologies plus précises. Vous savez que notre science est une science historique, donc la datation y est absolument essentielle. Et dater les choses pour nous, ça veut dire établir des calendriers et des correspondances de calendriers. Et sans ça, on ne raconte que des histoires et non pas l'histoire.
Yves Coppens, un nouvel Australopithèque fait aussi la une de l'actualité. Là encore, Sébiba, avec ses 440 cm3 de cerveau, pourrait être notre ancêtre, du moins d'après son découvreur, Lieberger.
Alors, je voudrais vous parler de deux choses. D'abord de Lieberger et ensuite de son fossile. Lieberger est un ami, Lieberger est un Américain. Lieberger, je l'ai vu débarquer en Afrique du Sud. Conquérant, mais conquérant à juste raison, parce qu'il est suffisamment intelligent Et Malin, pour avoir fait une prospection très très générale et avoir choisi les bons sites, et du coup avoir fait des découvertes très très impressionnantes, très intéressantes. Par ailleurs, c'est un homme des grands coups de trompette, donc les médias du monde entier en sont avertis avant que nous-mêmes ne sachions quoi que ce soit. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'on a de très bons rapports, donc par téléphone ou par mail, parfois, ça se transmet. Mais justement, ça, on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que si ce changement climatique dont je parlais a donné des formes différentes au Tchad, puis en Afar, puis en Afrique de l'Est, il a donné aussi une forme gracile, une forme grêle, une forme petite en Afrique du Sud, qui est la filiation Australopithecus africanus, Australopithecus sediba. Donc pour moi, sediba, au lieu d'être l'origine de quoi que ce soit, c'est la fin d'un petit rameau gracile. Et c'est la fin habile, parce que cet Australopithèque-là, il a toujours une petite tête, il a toujours un petit cerveau, il grimpe encore, ce qui n'est pas en sa faveur. Mais par ailleurs, il a un bassin qui s'est transformé au point que il marche mieux, il court mieux, et il a aussi des extrémités, des membres supérieurs qui sont améliorés, en ce sens qu'il saisit mieux et que, en ce sens, il devient plus humain.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Yves Coppens, je reviens sur ce chercheur américain Lee Burger qui a récemment annoncé la découverte d'un nouveau fossile, Homo naledi, qui suscite, semble-t-il, quelques questionnements dans la communauté des paléanthropologues.
Ben, il nous embête celui-là, oui. C'était toute une découverte tout à fait extraordinaire, hein, puisque c'est dans un trou. D'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est d'avoir fait un appel à des jeunes filles suffisamment
Gracile.
Oui, gracile, pour plonger dans le trou et aller chercher les fossiles. Moi, j'ai jamais eu cette chance d'avoir besoin d'un personnel de cette catégorie. Je l'ai eu quelques fois, mais c'était pas une sélection. Et il se trouve que ces restes sont nombreux, sont très nombreux. Donc, ça ressemble à une accumulation peut-être délibérée, ça, en tout cas une accumulation certaine. Et cette accumulation, elle peut être naturelle, due par exemple au repère d'un carnivore, mais elle peut être due aussi à une accumulation tout à fait culturelle. Et dans ce cas-là, il s'agit forcément de quelque chose qui n'est pas très ancien. Mais par ailleurs, un ami, un collègue d'Afrique du Sud a étudié les crânes, et il a étudié les crânes du point de vue métrique. Et par les calculs, il arrive à une ressemblance avec les crânes des plus vieux des hommes, c'est-à-dire des Homo habilis. Il y a donc en ce moment un petit conflit, enfin un vrai conflit, c'est pas réglé quoi, entre ceux qui pensent à l'aspect culturel et qui pensent à quelque chose de pas trop vieux, que ce que ça veut dire, quelques centaines de milliers d'années peut-être, et puis quelque chose d'extrêmement vieux, et ça veut dire quelques millions d'années, c'est quand même beaucoup.
Yves Coppens, vous dites que les anthropologues ont le syndrome des origines. Un bon fossile est un fossile qui a de la descendance?
Lisez les paléoanthropologues, hein, ce qu'ils ont trouvé, c'est toujours l'origine de quelque chose. Oui, bien sûr, ça va de soi. Hein. D'abord, quand on cherche des primates, on cherche forcément l'homme. Et quand on trouve un petit bout de hominidé, un petit bout de préhumain, on a forcément l'idée que c'est celui-là, c'est le bon, c'est l'ancêtre, c'est celui qu'on cherchait, c'est celui qui nous manquait, etc. Ça va de soi. Alors après, ça s'arrange, c'est-à-dire que le fossile revient à sa place naturelle, qui peut être d'ailleurs une place extrêmement importante, mais il y a une tendance en effet à rechercher et à penser qu'on a découvert l'origine à chaque fois.
Et à l'ouest de cet ensemble, le Tchad a livré de grandes découvertes, tandis que quelques éléments d'hominidés ont été trouvés et mis au jour vers le Congo.
Oui, c'est-à-dire que l'Ouest n'est pas exclu, naturellement, il n'y a pas de raison. Mais c'est une question d'environnement. Il se trouve que, du point de vue de son anatomie, le préhumain comme l'humain, l'hominidé, je dirais depuis 10 millions d'années, pour être au large, moi j'aime bien anticiper, hein, est adapté à la fois au milieu forestier découvert, au milieu forestier clair, ce qui lui laisse les possibilités de grimper, et en même temps à de grands espaces découverts, genre prairie même, et qui sont repérés notamment par les études de carbone des dents, qui sont les études de carbone des plantes. Et ces êtres-là, qui sont à la fois debout en permanence, j'insiste, en permanence, et il n'y a qu'eux, et qui sont en même temps donc bipèdes et grimpeurs, sont en effet des gens qui sont adaptés à ce milieu très particulier. Alors ce milieu très particulier, on le pensait uniquement d'Afrique orientale et méridionale. On l'a trouvé récemment, enfin Michel Brunet l'a trouvé récemment en Afrique centrale. Et il n'y a pas de raison que l'Afrique de l'Ouest n'en ait pas aussi bénéficié, surtout à l'époque où il y a eu des changements latitudinaux de biotopes. C'est-à-dire que la forêt, elle est aujourd'hui au creux du golfe de Guinée, mais elle a bougé en latitude, et elle a bougé quelquefois de 1000 à 1500 kilomètres, ce qui n'est pas rien, parce qu'on connaît bien ce genre d'évolution climatique et du coup d'évolution des paysages qui accompagnent les changements climatiques.
Yves Cobbins, comment définiriez-vous l'homme?
Oui, ça je vois d'où vient la question. C'est un des directeurs du CNRS qui m'a posé cette question, mais quand c'est dans un escalier entre deux portes, c'est pas facile d'y répondre parce qu'on n'y pense jamais. Et ce directeur s'appelait Kourouïdski et il organisait, c'était vers 76 je pense, une grande exposition du CNRS à Nice. Et il m'a dit comment vous définiriez l'homme. La première question d'ailleurs c'était, tiens copain ça, bonjour, comment allez-vous? Il y a toujours autant d'os dans votre vie? J'ai dit oui monsieur le directeur, oui. Et comment définiriez-vous l'homme? Alors je dis l'homme pour moi c'est un primate, sûrement opportuniste, sûrement social, parce que tous les primates sont sociaux, sûrement intellectuel, réfléchi, conscient. Et en même temps, j'avais terminé par trouillard, et ça l'avait beaucoup amusé. Et lorsque, sans être cité, lorsque je suis arrivé à Nice et que j'ai vu l'ouverture de l'exposition, il y avait une grande banderole qui avait repris ma définition de l'homme et qui donc utilisait tous ces qualificatifs que j'avais tout à fait improvisés dans un coin de couloir.
Donc la trouille, moteur de survie et d'évolution, voilà quand même un beau thème.
Forcément un peu, parce que les bestiaux, enfin c'est toujours pareil quoi, la nature a l'obsession de la conservation de l'espèce.
Et nous voulons sauver notre peau.
Oui, et l'obsession de la conservation de l'espèce, elle est devenue avec l'homme qui lui est devenu conscient, une obsession de la conservation de la personne. Ça, on le sait bien avec la médecine d'aujourd'hui, par exemple. Et cette obsession-là, elle se traduit par une transformation physique, une transformation intellectuelle, désormais une transformation aussi spirituelle. Tous ces êtres-là veulent survivre à tous les coups, quoi, si j'ose dire, à tout prix. Et en ce qui concerne les restes d'hominidés ou les restes d'animaux, on voit bien comment se fait la transformation. Transformation de la dent, transformation de la patte chez l'homme, transformation de la tête. Et puis ensuite, avec l'homme qui a justement une transformation de la tête, une transformation de son cerveau, de sa réflexion, et du coup une transformation de sa prise de conscience de la nature et de la fabrication de la culture et tout ce qui nous caractérise aujourd'hui.
Vous écrivez que certains de vos collègues anthropologues ont tendance à tirer l'homme vers l'animal par mauvaise foi ou provocation.
Oui, mais je pense que c'est dû... Enfin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens qui sont ainsi. Et les jeunes gens, je n'ai rien contre, tout au contraire, je trouve que Il représente la génération qui arrive. Elle est brillante. Elle est souvent mieux informée que la mienne, d'ailleurs, en ce qui concerne l'usage des mathématiques, en ce qui concerne, bien sûr, l'usage de l'informatique, en ce qui concerne, bien sûr, l'usage de l'électronique, enfin, etc., etc. Mais ces jeunes gens ont enfin, c'est pas tous, hein, mais certains ont tendance à tirer l'homme du côté de l'animal, du côté de la zoologie, alors que d'autres ont tendance à tirer l'homme du côté du ciel et du spirituel et des dieux, etc. Et c'est pas mieux dans un sens que dans un autre, quoi. En fait, nous sommes issus du monde animal, ça ne fait aucun doute, mais nous représentons un autre stade qui se poursuit bien sur le plan quantitatif et qualitatif en même temps. Qualitatif, c'est tout à fait sûr, et quantitatif, ça ne fait pas de doute. Et en fait, cet homme-là représente ce que nous sommes aujourd'hui.
Quand vous parlez de Dieu, vous parlez probablement du courant créationniste ?
Non, je parle de cette facette. Non. Le courant créationniste, c'est presque un détail. Enfin, il y en a toujours eu, hein. Il y a les textes révélés. À partir du moment où on adhère à un texte révélé, on peut pas associer ça à la science. C'est autre chose. C'est tout à fait respectable, mais c'est autre chose. Je pense à la facette spirituelle incontestable de l'homme. Un collègue ethnologue dit dans aucune société, la mort est la fin de la vie. Ça veut dire que la mort nous embête toujours, enfin, à juste raison. La mort des autres, bien sûr, la mort en soi, bien sûr, et sa propre mort, bien entendu. Et donc, pour essayer de rattraper ça, pour essayer d'adoucir cela, on a fabriqué, enfin, je peux pas dire ça comme ça parce que ce serait un peu négatif, mais on a imaginé en tout cas des prolongements, des prolongations qui sont multiples, hein. Depuis le début de l'humanité, il y a dû avoir des milliers de représentations de ce qu'était la vie après la mort. Et ceux qui ont mon discours scientifique sont aujourd'hui encore la toute petite minorité des 8 milliards d'hommes qui existent sur la Terre.
Yves Coppens, vous n'avez pas pu les manquer. Les plus vieux outils de l'humanité viennent d'être mis au jour par une équipe française sur le lac Turkana au Kenya.
3 300 000 ans, en effet, oui.
Ben, c'est un bon résultat, quand même.
Ah, superbe, superbe.
Superbe. Et qui pose beaucoup de questions, visiblement. Toujours, oui. Qui pourrait être les premiers tailleurs ?
C'est ça qui est bien. Qui pose beaucoup de questions, mais ces jeunes gens lisent beaucoup les textes anglais, qui ne sont pas mauvais, au contraire, mais qui ne disent pas tout. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas assez les autres textes. Et je pense aux textes français en particulier, parce qu'à ces époques de 3 300 000 ans, il y a par exemple des restes des ossements dont les articulations sont tout à fait modernes. Alors il y a peut-être là un bestiau un être qui nous échappe et qui serait le fabricant de ces outils-là, j'en sais rien, hein. Mais peut-être aussi que il faut pas faire un lien tout à fait strict entre l'outil et l'homme, et que l'outil a pu être fabriqué par d'autres êtres que des restes humains.
Yves Coppens, merci beaucoup. À lire absolument « Des pastilles de préhistoire, le présent du passé 4 », publié chez Odile Jacob. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Richard Dufour, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Dans le Salon Noir, il n'y a pas que les australopithèques ou les singes que l'on fouille, les rois de France aussi. La semaine prochaine, Louis XI sera sous la truelle de Patrice Georges.